Bonjour, vous écoutez FM Plus 91 FM à Montpellier. C'est le 10e numéro de l'émission Le Fil du Fer, l'actualité plus ou moins actuelle des projets en tout genre et des chemins de vie. Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. René Char. Claire Musiol, vous avez 32 ans, vous êtes née à Strasbourg, vous habitez Montpellier, vous vivez en couple. Comme vous me l'avez dit quand je vous posais la question, à propos de votre parcours scolaire et professionnel, vous avez fait plein de choses. Née en Alsace, vous avez passé un baccalauréat franco-allemand, vous avez étudié un an en Hippocagne, des études supérieures en lettres. Cette année-là, vous êtes partie seule en Iran depuis l'Europe. Ensuite, vous êtes lancée dans l'obtention d'un diplôme universitaire en FLE, français, langue étrangère. Vous avez étudié en licence l'histoire des sciences politiques, puis passé un master en géopolitique. Ce n'est pas fini. Vous avez continué votre parcours à Duke University, en Caroline du Nord, c'est aux États-Unis d'Amérique. Revenu en France, vous êtes entrée dans un cabinet de conseil. Vous devintes consultante à Paris pour ce qui touche aux politiques publiques. Les politiques à l'égard des personnes âgées et handicapées. Dans une agence d'État, vous voilà chargée de projet et formatrice pour les agences régionales de santé. En 2014, vous avez tout lâché. Un très bon boulot, un bon salaire. Vous êtes retournée avec votre compagnon aux États-Unis d'Amérique. Cette fois-ci, direction la Californie du Sud. Vous voilà apprentie écrivaine en couple. Vous quittez la côte pacifique des États-Unis d'Amérique. Vous arrivez à Montpellier. Vous y montez votre vie professionnelle actuelle, celle dont nous allons parler maintenant. Vous êtes écrivaine, auteure de théâtre, poétesse, animatrice d'ateliers d'écriture, cofondatrice et co-directrice du Festival Montpellierin Écrire en mouvement. Bonjour Claire.
Bonjour Lionel.
Partons de là. Quel regard portez-vous sur la vie dont je viens de donner quelques succinctes étapes ? Qu'est-ce que ces étapes, ces voyages, ces départs et ces arrivées racontent de vous, de votre personnalité, Claire ?
Alors je dirais d'abord que ce que ça montre, c'est l'envie et le besoin de rêver grand, d'oser faire des choix différents, d'oser partir et d'oser recommencer. Parce que, comme ça vient d'être dit, j'ai effectivement fait des choses assez différentes qui m'ont permis de me mener là où je suis aujourd'hui. C'est aussi, se laisser guider par l'imaginaire, oser voir ce que souvent, dans la vie en général, on voudrait tenter d'oublier nos rêves peut-être d'enfant. Et je pense que ça montre aussi un peu de folie et peut-être aussi du courage. Croire que tout est possible et qu'on peut changer.
Très bien, donc dans les mots, l'autobiographie évoquant son enfance jusqu'à l'âge de 11 ans, Sartre évoque la bibliothèque familiale et les trésors qu'elle recèle. Dans vos souvenirs, que contenait-elle cette bibliothèque ? L'enfant et l'adolescent que vous fûtes, avait-elle, de la part de ses parents, un accès sans restriction à leurs livres ?
Alors, c'est étonnant que vous avez choisi ce livre-là, Les mots de Sartre. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre scolaire et qui m'a beaucoup marqué. C'est un livre, pour moi, qui représentait aussi une certaine image de Paris, où j'ai voulu aller à 20 ans. Donc, il a tenu un certain rôle aussi dans mes choix. Au contraire de Sartre, parce que dans cette autobiographie, il y a une bibliothèque magnifique, qui est grandiose, à plusieurs étages, qui est la bibliothèque du grand-père, où Sartre, on peut passer des journées entières, il a accès à tous les livres, les classiques. Eh bien, au contraire de lui, je n'avais absolument pas ça.
Qu'est-ce qu'il y avait alors ?
Il y avait quand même assez peu de livres, il y avait très peu de classiques. Je n'ai pas grandi dans une famille qui s'y connaît en littérature. Donc moi, mon lien à la littérature et aux livres en général a été fait via les bibliothèques municipales et les médiathèques qui recèlent de tous les trésors possibles. Donc j'ai beaucoup lu, mais sans être guidée, en fait, sans choix, sans tout à fait... Sans tout à fait me poser la question de ce que je lisais, j'ai juste englouti un tas de choses Voilà, donc en fonction de ce que je trouvais. Et puis sinon, ben, comme je le mentionnais tout à l'heure, l'école a tenu un rôle important, puisque c'est à travers ma scolarité que j'ai eu accès aux classiques, que j'ai appris à lire un peu différemment, à lire de façon guidée, puisque ce n'était pas le cas dans ma famille. Et je dirais que j'ai vraiment découvert la littérature plus tard, à 20 ans, enfin à l'adolescence, et puis après, c'était... Voilà, c'est là que j'ai eu vraiment un regard différent et commencé à avoir une analyse sur ce que je disais.
Et en parlant des bibliothèques, et donc de la bibliothèque que vous n'avez pas eue, étant enfant, j'aimerais savoir, selon vous, quelle devrait être justement la bibliothèque idéale d'un enfant, d'un ou d'une adolescente ?
J'aurais du mal à donner des titres ou une liste pour dire ce qu'il faudrait lire. Je dirais qu'il faudrait d'abord se faire plaisir. Il faut aussi nous replacer dans le contexte actuel. Les enfants et les adolescents ont accès à Internet, aux séries, à la télé, aux réseaux sociaux. Et pouvoir rentrer dans un livre, c'est pas toujours évident. Prendre le temps de le faire. Donc, je pense qu'il faut être assez libre vis-à-vis des enfants et des adolescents et les laisser se faire plaisir, quel que soit le domaine qui leur plaise. Ça peut être policier, ça peut être fantastique, ça peut être des livres qui permettent de leur ouvrir leur imaginaire.
À quoi servent les livres, Claire ? Votre site, clairemusiol.com, contient votre manifeste. Vous vous attachez à énoncer les devoirs des livres, selon vous.
Pour moi, le plus important dans les livres, c'est que ce sont des portes ouvertes. Ce sont des mondes nouveaux qu'on offre aux lecteurs. Donc, en fonction de nos sensibilités, il y a certains mondes dans lesquels on a envie d'entrer et d'autres non. Mais pour moi, ça, c'est le rôle essentiel. C'est cette magie, en fait. C'est donner à voir, c'est donner à ressentir. C'est offrir quelque chose, c'est transmettre quelque chose que le lecteur, dont le lecteur peut s'emparer ou choisir de laisser à côté, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, pour moi, les livres, c'est des mondes.
Lors de notre discussion préalable, vous avez soulevé l'origine de votre goût pour l'écriture. Vous y avez glissé rapidement l'existence de carnets. Je suis très curieux. Pourriez-vous les décrire, en révéler le contenu, s'il vous plaît ?
Alors effectivement, depuis que je suis toute petite, depuis que je sais écrire, j'ai des carnets dans lesquels je prends des notes et je continue à le faire. Hein, donc petite, c'était en fait j'écrivais des histoires dans ces carnets. Des histoires, je me rappelle notamment d'une histoire de pingouin. Enfin voilà, c'était aussi des notes sur ma famille, sur mon présent, sur mon vécu de petite fille. Et puis il y avait aussi tout ce que je voudrais être quand je serai plus grande. Et puis il y avait, j'aime quand j'ai re-regardé ces carnets, on y retrouve cette envie d'être écrivain. Donc déjà toute petite. Qui était sur ces pages.
Donc vous avez conservé ces carnets, la totalité de ces carnets peut-être. Vous servent-ils aujourd'hui en tant qu'écrivaine ?
Alors, ce que j'avais quand j'étais petite, tous n'ont pas survécu. Hein. Certains, notamment toute la poésie que j'avais chez mon père, ils ont probablement été jetés. Il y en a d'autres qui sont dans des cartons chez ma mère. Et donc, cela me sert un peu plus en pensée. Je les porte avec moi, mais je ne peux pas avoir accès à tout ce qui a été écrit. Il y a quelques photocopies qui subsistent de pages, mais c'est tout. Et sinon, il y a tous les carnets des 10 dernières années, ou un peu plus, ceux-là que j'ai avec moi. Et que j'ai... ils me servent... Enfin, je ne les feuillette pas non plus très souvent, mais je sais qu'ils sont là et de temps à autre, plusieurs fois par an, je vais les feuilleter, je vais reprendre des choses qu'ils contiennent, je vais m'inspirer de nouveau des idées que j'ai pu avoir. Et je pense que s'il fallait sortir immédiatement de l'appartement dans lequel j'habite, c'est la chose que je prendrais avec moi, c'est le tas de carnets.
Vous est-il possible de parler d'une de vos œuvres, s'il vous plaît ? Ce qu'elle est, ce qu'on y lit, ce que vous avez désiré y mettre, comment vous avez commencé à l'écrire et comment vous y avez mis un point final, le fameux point final chez l'écrivain ?
Alors, pour me choisir un, je dirais le roman « Le bleu du ciel », qui est un roman noir. Alors celui-ci, parce que c'était en fait le premier roman, c'était le premier récit au long cours, et il a été écrit, il a été commencé au Mexique et terminé aux États-Unis, celui-là. Le premier jet, c'était 6 semaines, Puis il y a eu des mois et des mois de réécriture et relecture. Mais c'était en fait la première vérification pour moi. Est-ce que je peux écrire? Est-ce que j'arrive à écrire un roman? Est-ce que je peux aller au bout? Et est-ce que ça me met en joie quotidiennement? Voilà, donc j'ai passé des mois à me concentrer sur ce roman-là. Et c'était effectivement une joie.
Et ce roman, alors, est-ce que vous pourriez un petit peu raconter son histoire?
Oui, bien sûr. C'est un roman noir, c'est une histoire de famille. Ça se passe dans les années 70-80 en France. C'est en fait une femme et un homme qui se retrouvent ensemble mais qui n'auraient pas dû vivre ensemble. Ils se retrouvent ensemble parce qu'elle est tombée enceinte juste avant que la loi Veil ne passe, juste avant l'autorisation à l'avortement. Et donc, ils construisent une famille avec toutes les failles sur lesquelles elle est construite.
Et un roman a un titre, habituellement. Est-ce que vous avez donné un titre à ce roman?
Oui, Le bleu du ciel.
Le bleu du ciel. Et pourriez-vous nous parler de ce que vous avez écrit jusqu'à ce jour? Que trouve-t-on dans votre bibliographie, à la fois sur papier imprimé et sur Internet?
Alors, on trouve un peu de toutes les formes. J'ai écrit en fonction des inspirations, ce qui fait que ça touche un peu à tous les genres et je laisse les mots prendre la forme qu'ils souhaitent en fonction du projet. J'ai donc écrit d'abord un recueil de nouvelles. Les bonnes nouvelles arrivent surtout quand on ne les attend pas. Le roman, Le bleu du ciel, également une pièce de théâtre, Marianne, et un recueil de poésie qui est sorti là, il y a quelques mois, Par tous les moyens, cheminée. Il y a aussi des textes en revue littéraire, des textes en ouvrage collectif, tout ce qui n'est pas publié pour l'instant, qui est en attente, des choses qui sont en cours d'envoi dans des enveloppes. Et également, une autre forme, c'est des textes écrits lors de performances d'écriture. Voilà, donc on trouve, pour les livres, on les trouve sur Internet et en papier.
Vous animez des ateliers d'écriture à Montpellier et dans sa région. Je vous invite à décrire ce qu'ils sont, ces ateliers. En quoi ils vous ressemblent comme personne et comme auteur, ce qu'ils apportent à votre propre pratique d'écrivaine.
Alors, ces ateliers, je les construis avec mon expérience américaine et mon expérience française. Parce que comme vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a une grande tradition de Creative Writing Workshops, donc l'accompagnement à l'écriture créative qu'on avait beaucoup moins en France. J'anime beaucoup d'ateliers d'accompagnement à l'écriture de romans ou de nouvelles, avec l'intention et l'envie d'accompagner des gens dans leurs projets au long cours. Et mon approche est vraiment, ce que j'essaye de faire, c'est une approche libératrice, avec l'idée de vraiment s'autoriser à rencontrer son écriture, s'autoriser à aller explorer son monde. Et dans ces ateliers, j'outille en fait les personnes, donc on voit énormément de choses pour les aider à écrire, arriver à aller au bout de leur projet, un chemin que moi-même j'ai suivi à plusieurs reprises.
Nous allons écouter What a Feeling, chanté par Irène Cara. Claire, vous avez choisi cette chanson pour cette émission. Pourquoi ce choix ?
C'est une musique, en tout cas pour moi, qui me met toujours de bonne humeur, qui me donne envie de me lever, quoi qu'il arrive, même quand les choses ne sont pas telles qu'on le souhaite. Et c'est un film d'ailleurs c'est la BO du film Flashdance. Et c'est un film où une jeune femme hésite à réaliser son rêve d'être danseuse. Et puis un jour, elle ose enfin. Donc c'est très inspirant.
Donc levons-nous et dansons.
But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of steel. Forever.
Eh bien, nous nous sommes levés, nous avons dansé et vous êtes toujours sur Radio FM+, 91 FM à Montpellier. Vous écoutez le 10e numéro du Fil du Fer, nous écoutons le parcours de vie de Claire Musiol, écrivaine, animatrice d'atelier d'écriture, cofondatrice du festival Écrire en Mouvement. Claire, j'aimerais que nous abordions le sujet du changement, de la rupture ou de l'évolution dans une vie professionnelle et personnelle. Jusqu'en septembre 2014, comme je l'indiquais au début de cette émission, vous travaillez à Paris. Le poste et la paye étaient bons. Vous logiez avec votre compagnon dans un logement de la ville de Paris. De l'extérieur, tout semble aller. Pourquoi avez-vous décidé de démissionner, d'abandonner vos bons postes et paye, ainsi que votre logement à bas coût ?
Alors j'étais avant-hier au théâtre à 7 et j'ai regardé la pièce Seule de Majdi Mouawad. Et dans la pièce, il a dit, il y a cette phrase, donc je la dis de tête, donc elle est peut-être fausse, mais comment on sait quand on rate sa vie ? Quand on l'a raté, après coup, on le sait, mais pendant qu'on est en train de la rater, comment on fait pour le savoir ? Et je pense qu'en fait, on sait toujours. Au fond, nous, on sait. Et là, je savais clairement que je n'étais pas à l'endroit où je devais être. Quand on arrive au travail le matin et que la première chose qu'on fait, c'est regarder par la fenêtre les arbres, quand on n'a pas envie d'être là où on est et qu'on sait qu'il y a autre chose qu'on voudrait vraiment faire, c'est qu'il y a un problème. Et donc, j'ai décidé effectivement de tout quitter, de tout laisser derrière moi, d'une manière de telle. Enfin, j'ai fait aussi d'une manière à ne pas pouvoir revenir en arrière. Et donc, il y avait tout à construire, il y avait tout à reconstruire. Mais si je ne m'y étais pas mise à ce moment-là, quand ? En fait, c'est toujours la question, ça fait peur, mais en même temps, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va le faire ?
Quand on est en couple, comment est-ce que cela se discute, un changement de vie personnelle qui aura des conséquences dans la vie personnelle et professionnelle de la personne qui partage votre vie ? Que faisait alors votre compagnon ?
Alors, il était à l'époque en thèse. Et puis, un jour, je suis venue et je lui ai dit, je veux quitter mon travail, je veux quitter Paris et puis je veux me mettre à écrire. Enfin, chose que je faisais déjà à côté de mon travail, mais là, ne faire plus que ça. Donc, on peut très bien imaginer que quand on est dans une certaine situation confortable, avec un quotidien où tout va bien, quand quelqu'un vient et demande de tout changer, ce n'est effectivement pas facile. Donc, ça a donné lieu à des discussions, à des échanges. Et puis, un jour, en fait, j'ai dit, moi, il faut que je parte. Donc, ça sera avec ou sans toi. Puis, on a réussi quand même à trouver un moyen de le faire en deux. Mais clairement, ça a changé nos vies. Voilà, en mieux. Mais ça a changé nos vies.
Alors, ce changement de vie, après donc la Californie, vous arrivez à Montpellier. Pourquoi cette ville ? Et quand vous vous installez, qui faites-vous ? Vous n'avez pas de réseau professionnel. Racontez, je vous prie, le dynamisme d'une jeune femme dynamique, jeune auteur inconnue dans la ville, qui veut faire de l'écriture son métier.
Alors, pourquoi cette ville ? Il y a eu une part de hasard. On était effectivement en Californie du Sud, il faisait très beau, il y avait l'océan. Et puis, on savait qu'on allait rentrer en France et on a fait une liste de tout ce qu'on aurait souhaité retrouver dans la ville française dans laquelle on allait s'installer. On a eu le choix et puis il y a eu Montpellier. Et en fait, quand on a entendu le nom de la ville, on s'est dit « mais c'est ça ». On ne connaissait absolument personne. Moi, j'y avais passé une fois un après-midi, c'est tout. Mais on savait que ça allait être là. Je savais aussi qu'il y avait un certain dynamisme culturel, mais vraiment sans en connaître davantage. Et alors, comment on construit quelque chose ? Effectivement, avec du dynamisme et de la motivation. Il y a des jours pour lesquels c'est plus dur que d'autres, mais recommencer de zéro, c'était, en tout cas pour moi, aller toquer aux portes, rencontrer des gens, me présenter, voir ce qui existait, répondre, au niveau écriture aussi, répondre à des appels à texte dans des revues locales, aller à des soirées de lecture. Voilà, donc, c'était beaucoup aller vers, rencontrer, s'ouvrir au monde local.
Vous savez depuis très jeune que l'écriture ne peut être que votre vie, vous venez de le dire. Comment vous êtes-vous, devenu adulte, formé au métier d'auteur,
Alors là encore, tout à l'heure je le mentionnais, aux États-Unis il y a toute une tradition depuis les années 50 d'enseignement de l'écriture, notamment en université. En France on n'a pas ça, ça fait 5 ans qu'on trouve ce genre de formation. Donc moi je ne me suis pas formée par ce biais-là. Il y a d'abord eu écrire. Plein de choses, et lire aussi beaucoup de choses très différentes. Et puis aux États-Unis, j'ai rencontré une auteure, Barbara DeMarco Barrett, avec qui j'ai beaucoup appris, qui, elle, animait justement des ateliers d'écriture qui formaient en université. Et ensuite, il y a eu aussi toutes les interviews d'écrivains, les échanges avec des écrivains, tout ce qu'on peut entendre à la radio, ce qu'on peut trouver sur Internet. Voilà, et puis tout le processus d'écriture soi-même, hein, écrire, réécrire, relire, rechanger, aller au bout, remodifier. Voilà, donc à travers tout ça, l'expérience et le partage avec d'autres, j'ai appris.
Je vais vous poser une question peut-être inattendue. Qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage et comment construit-on un personnage qui pour vous est vivant et peut-être plus vivant que la vie ?
Pour moi, pour qu'un personnage soit vivant, il faut qu'il touche. Il faut qu'il vienne chercher le lecteur à un endroit où il ne l'attendait pas. Il faut qu'il vienne créer quelque chose, une émotion. Ça peut être un dérangement aussi. Plus vivant que la vie. Pour créer un personnage, on s'appuie sur la vie. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur nos sens. On va aller, on va le donner à voir. On va le donner à être au lecteur. Donc c'est en fait prendre le temps de le construire. Prendre le temps de laisser vivre et de le laisser aussi nous guider. Et en conte notamment, quand on raconte et quand on invente un personnage, on le voit vivre et on le donne à voir au public silencieux qui écoute. Et je trouve que dans les livres, c'est pareil.
Pourriez-vous partager auprès des auditrices et des auditeurs du Fil des Fers votre point de vue sur le statut des auteurs en France ? L'écriture nourrit-elle sa femme ? Nourrit-elle son homme ?
Alors intellectuellement, oui, ça nourrit beaucoup. Mais d'un point de vue pragmatique, dans la société capitaliste dans laquelle nous vivons, pour que l'écriture nous nourrisse physiquement, c'est un peu plus complexe. Il y a bien sûr des auteurs, il y a une centaine d'auteurs en France qui vivent vraiment très bien de leur écriture en fiction. Ce n'est donc pas du tout la majorité. Et je trouve que c'est important effectivement de pouvoir dire au grand public que quand on achète un livre qui coûte 20 euros, en fait, l'auteur touche 2 euros, qu'il va recevoir souvent une fois par an. Donc, c'est très loin d'un salaire habituel. Donc, voilà, quand on voit des photos sur des livres, on a l'impression que tout va bien et que les gens ont une vie facile. C'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a des modifications en cours, là, depuis le début de l'année 2019 sur le statut des auteurs. Il sera un peu long d'expliquer ici. Mais il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a certaines positives. Le Centre national du livre, il y a 2 ans, par exemple, a mis en place la nécessité de l'obligation de payer les auteurs quand ils viennent lire leur livre, parce qu'avant les auteurs venaient passer le week-end à lire un livre sur lequel ils touchaient 1 ou 2 euros gratuitement, ils passaient leur week-end là. Donc maintenant il y a un peu des dédommagements qui se mettent en place, mais on sent que c'est long quand même parce que y a toute une tradition qui était différente. Et j'aimerais aussi dire pour les auditeurs que la plupart des auteurs ont une multi-activité. Donc c'est depuis toujours, hein. Regarde Kafka qui était notaire dans une banque, enfin Camus, voilà, il y en a plein. Et c'est aussi mon cas, c'est-à-dire que l'écriture, peut-être avant qu'elle arrive à nourrir physiquement, on fait d'autres choses pour la compléter.
Venons-en au festival Écrire en mouvement que vous avez cofondé. Il se passe à Montpellier, vous l'avez créé avec Lily Robert Follet. Qui est-elle et qu'avez-vous fait ensemble ?
Alors Lily Robert Follet est maîtresse de conférence à l'université Paul Valéry à Montpellier. Elle est d'origine américaine, elle est également poète et traductrice. Et je vais dire aussi que depuis cette année, nous a rejoint Marie Bourgeat, qui est aussi universitaire à la même université, Paul Valéry. Et voilà, on l'organise cette année toutes les trois. Donc, Écrire en mouvement, c'est un festival qui a pour ambition de proposer des parcours d'écriture créative et de traduction créative dans la ville. Donc, notre envie était vraiment de mettre les mots en mouvement et dans l'espace urbain. C'est-à-dire, pas chaque personne fermée sur elle-même, mais vraiment de les laisser voler, marcher dans la ville. Ce sont donc plus concrètement, des déambulations qui ont lieu d'un lieu culturel à un autre. Donc pendant 3 heures, vous arrivez à un lieu culturel, je ne sais pas, le musée Fable, la maison de la poésie, et pendant 3 heures, vous allez être guidé par un binôme qui va vous ramener jusqu'à un autre lieu. Et pendant ces 3 heures, vous allez être invité à écrire
des choses selon les propositions de ce binôme. Donc, ce sont des choses très diverses et à la fin, vous allez, la proposition est de terminer par un happening participatif où tout le groupe est invité à restituer ce qui a été écrit d'une manière ou d'une autre. Il y a donc aussi le lien d'une langue à l'autre et l'envie que ce soit ludique. Envie de préciser aussi que les binômes, donc on les choisit, mais ça peut être un écrivain, un poète, il peut y avoir un musicien, il peut y avoir un danseur, il peut y avoir un universitaire, il peut y avoir un traducteur, ou bien sûr tout ça au féminin également, ce qu'on essaye d'ailleurs vraiment beaucoup de faire. Donc vous êtes guidés par un binôme à cheminer dans la ville, à cheminer avec les mots et à avoir un lien différent à l'écriture et aux mots et aux langues. Et la prochaine édition aura lieu du 17 au 21 mai 2019. Et notre site n'est pas encore à jour pour cette nouvelle édition, mais pour en savoir plus, on peut aller sur écrireenmouvement.com.
En quelques mots, comment est-ce de monter un festival à Montpellier ?
Alors là encore, partir de rien pour monter un festival grand public, c'est quand même fastidieux, ça prend du temps, il faut le dire. Quand on a l'idée, on est très motivé, tout semble facile, et puis après, il y a tous les aspects logistiques. En plus, là, c'est un festival gratuit, donc il y a une partie aussi de demande de subvention. Donc c'est aller la demander à des lieux, est-ce que vous voulez bien être partenaire, aller expliquer un petit peu partout ce qu'est ce festival. Donc c'est quand même chronophage, c'est agréable mais chronophage.
Pourriez-vous proposer au micro du Fil du Fer une poétique de la ville de Montpellier ? Permettez-moi de lier cette question à ces autres. Je disais au moment de votre présentation, au début de l'émission, que vous avez accompli seul le voyage vers et en Iran. Quel âge aviez-vous alors ? Quelle est la poétique du voyage en Asie ? Et a-t-elle eu cette poétique du voyage en rapport avec celle de la ville de Montpellier ? La ville, c'est où l'on s'installe, n'est-ce pas ?
Alors là, le voyage, je l'ai fait à 19 ans et je suis rentrée la veille de mes 20 ans. C'est un voyage de 7 mois, effectivement, que j'ai fait seule, à dormir chez l'habitant, à une époque où on n'avait pas de smartphone. La poétique du voyage, pour moi, c'est... Le voyage est nécessaire, c'est un besoin, c'est une source première d'inspiration. Et que ce soit en Asie, que ce soit à Montpellier, ou que ce soit, c'est... se mettre dans un ailleurs, accepter en fait de quitter sa coquille du quotidien et se laisser toucher quelque part de nouveau. C'est accepter de se perdre à soi en fait dans un environnement différent. C'est accepter beaucoup de choses et de laisser aussi germer l'inspiration. Entre l'Asie et Montpellier, il y a rien à voir, mais en même temps... c'est à chaque fois la découverte. Et Montpellier, au-delà de la ville, c'est aussi tout ce qui l'entoure. Parce qu'il y a la ville, mais il y a vraiment tout l'environnement alentour qui est très inspirant.
Claire, et qu'est-ce que votre changement de cap dans votre vie professionnelle a modifié chez vous et dans votre relation aux autres et au monde ?
Je dirais que c'est venu confirmer la personne que j'étais vraiment. À la fois je suis la même, à la fois je suis très différente. J'avais l'impression avant de faire des choses très importantes, de courir sur mes petits talons d'un ministère à l'autre, avec mon ordinateur, mon iPhone, voilà. Et puis aujourd'hui je regarde ça, je me dis mais... c'était tout sauf important. Ce n'était pas moi. Et ce n'était pas, en tout cas pour moi, la vraie vie. Et en ça, je trouve que j'ai changé, me connecter à vraiment... se connecter à l'écriture, c'est se connecter au monde et aux autres.
Claire Musiol, au moment de nous dire au revoir, je vous laisse redire la citation que vous avez proposée pour éclairer notre conversation.
Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. C'est de René Char.
C'était le Fil du Fer où l'on apprend encore et toujours que la différence entre faire et ne pas faire, c'est faire. Chères oreilles et chers cerveaux à l'écoute de l'histoire des autres, je vous dis à dans 15 jours pour l'émission numéro 11 du Fil du Fer. Vous trouverez les textes, la belle pensée, le beau visage de Claire Musiol sur son site www.clairemusiol.com. Et peut-être posez-vous cette question, qu'avez-vous prévu de commencer et où d'achever d'ici les 15 prochaines journées ?